Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie quotidienne des Européens, avec aujourd'hui l'inquiétude de la filière sucrière, 3 ans avant la fin des quotas, des réseaux sociaux turcs qui ne manquent pas de saveur, voir Rome et courir, une balade au large des îles Féroé, mais tout d'abord une question. Vous seriez bien resté au lit ce lundi matin et vous savez que la nuit a été trop courte. Mais connaissez-vous le temps de sommeil idéal pour se réveiller le teint frais? Eh bien, il est de 7h38 pour les femmes et de 7h46 pour les hommes. C'est du moins les résultats d'une recherche menée par l'Institut finlandais de la santé publique. Une étude intéressée puisqu'il s'agit aussi de réduire les dépenses de sécurité sociale, Pauline Curté.
Des dépenses liées aux arrêts maladie en baisse de près de 30%. Voilà les économies qu'on pourrait raisonnablement envisager si l'on résolvait les problèmes d'insomnie et autres troubles du sommeil. Bien sûr, cette étude n'est pas la première à établir un lien entre bonne santé et nuit complète. Après tout, si l'on dort bien, rappelle Théa Lalouka, auteur principal de l'article, on est plus enclin à manger sainement, à mener une vie enrichissante et moins stressante. Mais la nouveauté ici, c'est que les chercheurs se sont penchés sur un très grand échantillon de patients. Près de 4000 Finlandais, venus de tous les horizons, ont dû, pendant près de 10 ans, répondre régulièrement à des questionnaires sur leur vie quotidienne. Ont-ils été en arrêt maladie? Pour quelles raisons? Prennent-ils des somnifères? Rien n'a été laissé de côté, ce qui a permis aux chercheurs d'obtenir des statistiques inédites et des résultats très précis. L'une de leurs conclusions est que ceux qui ne dorment pas suffisamment la nuit prennent 2 fois plus de congés maladie que les autres. De leur côté, ceux qui pensent que 4 ou 5 heures de sommeil par nuit leur suffisent sont détrompés par les statistiques, eux aussi tombent malades plus souvent. Enfin, les chercheurs ont glissé un avertissement au lève-tard. L'important d'après eux est de se coucher tôt, avant minuit, et surtout de ne pas trop dormir. Sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi, ils ont remarqué que les personnes dormant plus de 10 heures par nuit avaient les mêmes problèmes de santé que ceux qui ne dorment pas assez. L'une de leurs hypothèses est le manque d'activité physique, lié à de trop longues nuits de sommeil. Fini donc les grasses matinées.
De la boue sur les routes et des récoltes qui s'amoncellent le long des champs, pas de doute, la campagne betteravière est bel et bien lancée en Europe, mais la profession s'inquiète car dans 3 ans, le marché de la betterave sera totalement libéralisé avec la fin des quotas. En Belgique, qui a compté jusqu'à 174 sucreries, les producteurs et les raffineurs se demandent comment s'adapter. Le reportage d'Olivier Henrion de la RTBF dans la région sucrière de Tirlemont, non loin de Liège.
Wow, ça c'est une betterave alors.
C'est une betterave. Oui.
Elle est énorme.
Ouais, elle tire du sol. Voilà. Elle a été la machine l'a effeuillée, l'a scalpée. Elle est comme ça qu'elle arrive à l'usine, toute propre comme ça et bien coupée pour être travaillée à l'usine.
Des betteraves, Philippe Van Wontergem en produit entre 80 et 90 tonnes par an. Et avant même de livrer sa production au sucrier, il sait déjà combien il pourra en tirer.
Les contrats ont été établis avant les semis avec les fabricants de sucre et on a un prix fixe.
Et là, le prix aujourd'hui, il est de combien la tonne?
Le prix aujourd'hui, il est fixé autour de 26 euros.
Et c'est le même pour tous les producteurs belges de betteraves?
Oui, le prix est exactement le même pour tout le monde.
C'est la conséquence des quotas de sucre en Europe, une politique instaurée en 1968 pour soutenir le marché et garantir une production européenne suffisante. Mais en 2017, les quotas seront abandonnés, le marché sera libéralisé, le prix de la betterave ne sera plus connu à l'avance. Une perspective qui effraie les betteraviers.
Ben là, vous me faites peur parce que aujourd'hui, nous, on est demandeurs d'un prix fixe. On n'est pas des spéculateurs, nous ne sommes pas des gros financiers du tout. On travaille la terre Et notre but, c'est d'avoir un revenu de notre travail, un revenu équitable de notre travail. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on produit 80 tonnes à 26 euros. On sait ce qu'on va toucher, on sait ce que ça nous coûte. Et on sait, au bout du compte, ce qu'on va avoir pour faire notre compte au fin de l'année.
La fin des quotas, ça va vouloir dire alors une fluctuation des prix et une période d'incertitude devant vous. Vous pourriez gagner beaucoup moins que ce que vous gagnez aujourd'hui.
Ça, c'est un gros point d'interrogation. Suivant la production, suivant ce que les fabricants vont décider, est-ce qu'on va pouvoir négocier avec eux. Ils augmentent la production, c'est comme dans tous les secteurs, si on augmente la production, on a une diminution de prix.
Les sucriers aussi se préparent à cette petite révolution. À la râperie de Longchamp, par exemple. Aujourd'hui, sur le site de l'usine, qui appartient au groupe de la raffinerie Tirlemontoise, c'est un balai de camions qui viennent livrer chaque jour leur cargaison de betteraves. C'est là où la production de Philippe Van Wantergem va être déchargée, lavée, découpée en morceaux, avant d'être transformée en sucre quelques kilomètres plus loin.
Sur une journée, on a à peu près 18 000 tonnes de betteraves, et par heure, à peu près 750, entre 750 et 800 tonnes, ça dépend un petit peu de l'allure de l'usine.
Pierre Mazzi est chef de production du site de Longchamp.
L'extraction du jus de la betterave se fait de façon continue. D'ailleurs, ça porte le nom de diffusion continue. Et on pompe à peu près 750 mètres cubes par heure, 24 heures sur 24, pendant toute la durée de la campagne jusqu'à Wand.
L'usine ici fonctionne à plein régime, 4 mois par an. Mais la fin des quotas risque de bouleverser son organisation. C'est ce que va nous expliquer Christelle Noirhomme, la porte-parole de la raffinerie Tirlemontoise.
Abolition des quotas, pour nous, ça veut dire, en tant que sucrier, une énorme volatilité, tant dans les prix que dans les volumes. Donc c'est un ensemble de facteurs qui vont faire au sucre un peu l'effet yo-yo, comme d'autres cultures le connaissent déjà.
Depuis l'annonce de l'abolition des quotas, le marché du sucre est déjà devenu plus volatile. Les sucriers ont un avant-goût de ce qui les attend. Et une petite idée sur la façon de contourner le problème.
Le plus grand challenge pour nous en 2017, ce sera toujours plus de compétitivité. Être plus compétitif, c'est gérer ses coûts. Ce sont aussi des économies d'échelle. Donc pouvoir dire qu'en saisonnier, on ne travaille que 4 mois par an dans une usine, il faut traiter le plus grand nombre de betteraves sur un moment le plus court possible, ce qui provoquera peut-être aussi un allongement des campagnes, hein, un petit peu, pour pouvoir permettre justement d'obtenir ces économies d'échelle. Mais être plus compétitif, c'est aussi pouvoir se distinguer sur un marché, créer un avantage compétitif. Et à la raffinerie Tirlemontoise, on est très fiers de pouvoir dire que dans certaines spécialités sucrières, on a un bel avenir.
Donc finalement, cette fin des quotas, c'est quoi? C'est une opportunité ou c'est une mise en péril de l'industrie sucrière européenne?
Les prochaines années, sans avoir de boule de cristal, risquent d'être fort difficiles parce que entre la date d'aujourd'hui et 2017, le laps de temps sur une échelle industrielle est très très court pour se préparer. Donc il est fort probable que nous aurons des moments durs, probablement même très dur, mais à côté de ça, on est persuadé que si Raffinerie Tirlemontoise, avec les cartes qu'elle a en main, n'est pas capable d'y arriver, alors c'est la fin de toute l'industrie sucrière aussi.
Ces nouvelles règles du jeu ne mettront sans doute pas un terme à l'histoire de l'industrie sucrière en Belgique, mais son paysage va sans doute être profondément modifié. La course à la compétitivité des sucriers va sans doute tirer le cours de la betterave vers le bas, et plusieurs betteraviers ont déjà prévenu, ils sont prêts à tourner la page plutôt que d'être obligé de produire à perte.
C'est un pays régulièrement pointé du doigt pour ses entorses à la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. Et pourtant, cela n'empêche pas les internautes turcs d'avoir beaucoup de finesse et d'humour, quitte à prendre quelques risques. Pour en parler avec nous, Anne Andlauer à Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors les réseaux sociaux, un terrain fertile pour la pratique de la satire politique, et les internautes turcs adorent ça, Anne.
Oui, prenez par exemple la page Facebook de la chambre de commerce d'Isengard et ses 55 000 abonnés. Les fans du Seigneur des Anneaux auront reconnu le nom de cette forteresse de la Terre du Milieu où se déroule une partie du roman de Tolkien. Le concept de cette page est assez simple, détourner les images de la célèbre trilogie pour se moquer de l'actualité, politique ou pas. Fin septembre, par exemple, quand le gouvernement a autorisé le port du foulard islamique au collège et au lycée, La page a publié deux images du roi sorcier d'Angmar, un personnage de la série. Dans la première, où il porte une capuche, il dit qu'il n'a pas pu aller à l'université dans son royaume à cause de son voile, et dans la seconde, qu'il a dû se rendre en Mordor pour étudier. Les fans de la trilogie comprendront la référence.
Absolument. Et ce qui est vrai sur Facebook l'est aussi sur Twitter, Anne.
Oui, et certains anonymes ont gagné des dizaines de milliers d'abonnés en ne publiant que des réflexions, souvent amusantes, sur l'actualité et le quotidien. Mais en général, pour les saisir, il faut comprendre le turc et comprendre ce que les Turcs appellent, en français dans le texte, l'esprit, c'est-à-dire l'humour à la sauce turque. Cet esprit turc s'était manifesté, c'est le cas de le dire, à l'été 2013, pendant les grandes protestations pour sauver un parc d'Istanbul, le parc Gezi. Dans le parc, mais aussi sur les murs des rues de toute la Turquie, les manifestants avaient tagué des traits d'humour qui s'en prenaient souvent férocement au Premier ministre Recep Tayyip Erdogan.
Alors, succès fou aussi sur les réseaux sociaux de ce que les Turcs appellent les caps. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, un peu comme dans l'exemple du Seigneur des Anneaux que je vous ai cité, les Turcs adorent utiliser des captures d'écran, d'où le nom de cap, ou des photos pour les sortir complètement de leur contexte et y ajouter une légende humoristique, en général en lien avec l'actualité. Alors, ce sera plus clair avec un exemple. En mars de cette année, des coupures d'électricité avaient perturbé le décompte des voix aux élections locales. Scandale, soupçon de fraude, auquel le ministre de l'Énergie avait très sérieusement répondu que la faute de certaines coupures revenait à des chats qui étaient entrés dans des transformateurs électriques. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'en emparent. On a donc vu apparaître soudain, sur Facebook et ailleurs, des centaines de photos de chats accompagnées d'une légende souvent très très drôle. Par exemple, celle de cet adorable minet qui jure que le courant était déjà coupé quand il est entré dans le transformateur et qu'il ne faut pas croire les calomnies.
Alors Anne, on l'évoquait tout à l'heure, avec cet humour impitoyable et aussi le mauvais bilan de la Turquie en matière de liberté d'expression, est-ce que ces internautes, si anonymes soient-ils, ne prennent pas des risques à créer et à partager ces images ?
Oui, en particulier ceux qui s'attaquent directement à la personne de l'ancien Premier ministre et actuel chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. On sait que les avocats de ce dernier ont l'habitude de déposer des plaintes dès que leur client s'estime insulté par un texte ou une image. Il y a quelques années, par exemple, il avait attaqué un dessinateur de presse qui l'avait représenté en chat, décidément. Le mois dernier encore, un journaliste a été condamné à 11 mois de prison pour avoir publié dans un livre des photos d'inscriptions murales insultant le chef de l'État pendant les manifestations de l'an dernier. Les risques sont donc réels et pourraient même s'aggraver. Un texte débattu ces jours-ci au Parlement, s'il est adopté en l'État, ferait passer de 2 à 5 ans de prison la peine encourue en cas de propos constituant des menaces envers un personnage de l'État. Et cela concernerait aussi, bien sûr, les propos publiés sur Internet.
Eh bien, merci Anne Lauer et à très bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt, au revoir.
Venise a ses gondoles, Rome se découvre une paire de tennis aux pieds. Des tour opérateurs organisent désormais des visites de la capitale mythique au petit trot. Dans la troupe des joggeurs matinaux, notre correspondante Mathilde Auvillain, jamais à bout de souffle.
Are you ready? C'est parti, le tour de Rome en courant commence un petit trot léger sur les pavés, le long du Tibre, hop, sur un pont, c'est la Dolce Vita. À Rome, à chaque coin de rue, il y a quelque chose à voir et sans s'arrêter, sans s'essouffler, Christine, la guide, raconte l'histoire de la ville éternelle. Ces rues, la jeune Suédoise les a parcourues des milliers de fois.
When I first moved to Rome,
quand je suis arrivée à Rome, je m'entraînais pour le marathon. En mars, c'était une période d'entraînement intensif. Et quand je courais dans les rues de la ville, je me disais que ce serait génial d'avoir un tour qui emmène les gens en courant dans les rues qui permettent de visiter. En particulier tôt le matin, quand il n'y a pas de trafic, pas d'autres touristes.
Voir Rome et courir, Carly, joggeuse new-yorkaise, trouve ça génial aussi.
Oh, j'adore, on apprend tellement de choses qu'on n'aurait pas appris dans un autre tour. Nous, on court beaucoup et donc on pensait que ce serait bien de courir et d'apprendre en même temps.
Petite pause à Piazza del Popolo. L'obélisque, les églises, les tableaux du Caravage. Marc, le compagnon de Carly, américain lui aussi, est ravi.
J'ai vu des structures, des bâtiments qui semblent récents mais qui ont 300 ou 400 ans, ce qui est plus vieux que tout ce que l'on peut voir aux États-Unis. C'est vraiment génial de voir toute cette histoire et de sentir que j'en fais partie.
Christine continue la visite tout en trottinant, pas une goutte de sueur, super glamour en tête du groupe Via dei Condotti devant les vitrines de Gucci, Versace et Fendi.
La plupart ont l'habitude de courir, mais ce ne sont pas des coureurs de marathon, loin de là. La plupart font 4 ou 5 kilomètres, pas plus. Là, on fait un parcours de 6 kilomètres, donc ils sont contents quand ça s'arrête. Cela dit, on s'arrête assez souvent, donc n'importe qui, un minimum actif, peut le faire.
Une visite express de 6 km en une heure, de la basilique Saint-Pierre au Colisée, en passant par la place Navone, la place d'Espagne et ses fameuses marches.
135 steps.
Il y en a 135, je les ai comptés. C'est un bon exercice. Vous voulez essayer ? On met la musique de Rocky ?
I can sing the Rocky theme if you want.
Moment de doute, Carly et Marc se regardent, montent 3 marches et s'arrêtent. Christine prend la photo souvenir. Les touristes joggeurs veulent rester actifs sans toutefois renoncer aux petits plaisirs.
Avec toute la pasta qu'on a mangée et tout le reste, on veut rentrer dans nos habits. Ce soir, on va dîner, on va boire un peu aussi et du coup, on reviendra peut-être demain matin.
Et pour s'assurer de les revoir, Christine leur livre les secrets de Rome, les meilleurs glaciers, les meilleurs cafés, les meilleurs restaurants. Et pas seulement.
Il y a beaucoup de petites rues étroites que vous ne pouvez voir qu'en marchant. C'est une ville magique, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, parce que la période historique est très longue, c'est une ville éternelle.
Éternelles sont aussi les courbatures. À la fin du tour, à la Marcello Mastroianni, on piquerait bien une tête dans la fontaine de Trevi.
Le reportage de notre Anita Ekberg à nous, Mathilde Auvillain. Surfer sur la vague nostalgique, c'est exactement ce que proposent des amoureux de la mer des îles Féroé, cet archipel danois à mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande. Ils ont redonné vie à un vieux bateau de pêche. Sungshim Courrier est monté à bord du Dragin.
C'est dans le port de Klaksvík que Dragin, un magnifique voilier de 19 mètres de long et 5 mètres de large, a élu domicile. Dragin peut accueillir jusqu'à 30 passagers et en cette saison, la demoiselle accueille surtout des élèves à son bord car quand la météo le permet, elle les emmène pêcher au large. Les enfants adorent, il faut dire que la plupart ont le pied marin. Dragin est aussi un outil précieux de l'école de voile et de navigation locale. Mais Dragin, c'est avant tout une belle histoire d'amour. Construite à Copenhague en 1945, il est parti pour les îles Féroé l'année suivante. Il a alors changé plusieurs fois de propriétaire jusqu'en 1991 et tout aurait pu s'arrêter là si Hans Eli Hansen, un enseignant de Klaksvík, n'était passé par là. Le bateau n'était alors plus qu'une épave que Hans a pu racheter pour une bouchée de pain, moins de 3 euros. Lui et plusieurs amoureux de la mer ont pris l'initiative de lancer un fonds pour financer la rénovation du navire et les travaux ont pu rapidement commencer. 10 années de travail et de patience ont été nécessaires pour remettre Dragin à neuf, 10 années de sueur, de larmes et de rires, grâce auxquelles les touristes estivaux peuvent maintenant découvrir la faune exceptionnelle des îles Féroé. Et si vous croyez que le navire ne s'éloigne jamais bien loin des côtes féringiennes, détrompez-vous, Dragin a plus d'un tour dans son sac. Chaque été, Dragin navigue à l'étranger. L'embarcation a ainsi mouillé dans les ports d'Islande, d'Écosse, des îles Shetland et de Norvège. Et à entendre Hans et son joyeux équipage, Dragin a encore de belles années devant lui.
Accent d'Europe rentre au port avec à la barre Ludivine Amado. On se retrouve demain sur les ondes sonores ou tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.